Chapitre 8. Ambition.
Ainsi, chaque art occupe une place précise dans le spectre des magies, et ensemble, elles forment le grand cercle du pouvoir. Toute science magique s'y trouve incluse. Les talents du modeste sorcier des haies, avec ses amulettes, la divination par l'eau ou le cristal, la pratique bestiale du vif, la spiritualité céleste de l'art, et tous les rites domestiques de l'âtre et du cœur. Tous ces savoirs peuvent se disposer, comme je l'ai indiqué, en un vaste spectre, et il devient alors évident qu'un fil commun les relie. Mais ce n'est pas pour autant qu'un adepte peut ou doit tenter d'assimiler le cercle entier. Une telle envergure n'est donnée à aucun mortel, et à juste raison. Nul n'est fait pour commander tous les pouvoirs. Un artiseur peut étendre son domaine de connaissance à la divination, et l'on parle de magiciens des bêtes qui auraient acquis une certaine maîtrise de la magie du feu et de la sorcellerie des sorciers des haies. Comme on le voit sur le diagramme, chacun de ces secteurs mineurs est contigu aux arts majeurs concernés, et ainsi, un mage peut développer ses aptitudes pour absorber ses petits talents. Mais outrepasser cette ambition est une grave erreur. Pour celui qui lit l'avenir dans un cristal, c'est se fourvoyer que tenter d'apprendre la création du feu. Ces deux magies ne sont pas voisines, et l'effort à fournir pour les faire cohabiter, malgré leurs différences, risque de semer la confusion dans l'esprit. Pour un artiseur, s'abaisser à pratiquer la magie bestiale du vif, c'est provoquer le délabrement et l'avilissement de sa noble science, et il faut condamner l'ignominie d'une telle attitude. Le cercle de la magie, du maître d'art Auclef, traduction de Boiscoudé. Rétrospectivement, je pense avoir appris davantage que devoir de notre première leçon. Crainte et respect furent les enseignements que j'en tirais. J'avais eu l'audace de me poser en professeur d'un art que je comprenais à peine moi-même. Mes jours et mes nuits furent dès lors beaucoup plus occupés que je ne l'aurais jamais cru, car il me fallait être à la fois maître et élève, sans pour autant pouvoir abandonner mes autres rôles de domestique de cire dorée, de père de heure, ni d'espion des loin voyants. Comme l'hiver écourtait les journées, mes leçons en compagnie de devoirs débutèrent au noir, avant l'aube. D'ordinaire, nous quittions la tour de vérité avant même que l'aurore éclaircisse le ciel. Le prince et Imbre me pressaient d'accélérer la cadence, mais j'avais résolu de rester dans les limites de la prudence après la catastrophe que nous avions failli subir. Dans le même ordre d'idées, j'avais sans cesse remis à plus tard l'évaluation des capacités d'artiseur de lourds qu'Imbre me demandait instamment. Pourtant, je me donnais du mal pour rien. Lourd éprouvait autant de répugnance à mon contact que moi à la perspective de le former. En trois occasions, Imbre avait arrangé une rencontre entre nous deux dans ses appartements. À chaque reprise, l'idiot avait manqué le rendez-vous, et je ne m'étais pas attardé, espérant un simple retard de mon élève rétif. J'arrivais, notais son absence, et repartais. Les trois fois, Lourd avait expliqué à Imbre qu'il avait oublié l'entrevue, sans pouvoir dissimuler à mon vieux maître l'inquiétude et l'aversion que je lui inspirais.
« Que lui as-tu donc fait pour qu'il te déteste tant ?»
m'avait demandé Imbre, à quoi j'avais pu répondre sans mentir que je l'ignorais. La raison de son antipathie me demeurait mystérieuse, mais en attendant, je m'en réjouissais. L'ambiance de mes séances avec devoir était exactement à l'opposé. Le garçon me saluait avec chaleur et empressement à son entrée, et il attendait ses leçons avec impatience. Je ne parvenais pas à m'y faire, et je me demandais parfois, avec une curiosité teintée de regret, comment j'aurais réagi si mon premier instructeur avait été le prince Vérité. Me serais-je montré aussi avide d'apprendre que son fils ? Je ne conservais des cours de maître Galen que des souvenirs extrêmement pénibles. Et je n'avais vu que folie à vouloir imiter ses habitudes de vie indéréglables et ses exercices mentaux destinés à préparer l'étudiant à l'art. D'ailleurs, devoir ne paraissait avoir besoin de rien de tout cela. Quand il artisait, il ouvrait sans effort son âme à tous les vents, au point que je finis par m'interroger. Le combat quotidien que j'avais dû mener très tôt pour assimiler l'art ne m'avait-il pas été utile finalement ? J'avais été obligé d'apprendre à me frayer un chemin dans mes propres défenses. Devoir, lui, paraissait ne se découvrir aucune limite et pouvait me faire partager aussi bien les sensations de son estomac barbouillé que ses réflexions les plus affinées. Quand il s'ouvrait, Il laissait le champ libre à toutes les pensées éparses du monde. Sentinelle et témoin de son esprit, je m'en sentais quasiment submergé. Quant à lui, il en éprouvait à la fois de l'effroi et de la fascination, et ces deux émotions l'empêchaient de se concentrer complètement sur le but recherché. Puis, lorsqu'il martisait, on eût dit qu'il tentait de faire passer un câble par le chat d'une aiguille. Vérité m'avait raconté, jadis, que lorsque mon père chevalerie l'artisait, il avait l'impression de se faire piétiner par un étalon. Son frère déboulait sans crier gare, larguait son message et disparaissait aussitôt. Avec devoir, c'était pareil. S'il réussit à maîtriser son talent, il dépassera bientôt son professeur. Me plaignis-je à Imbre un soir très tard, alors que le hasard avait voulu que nous nous croisions dans ses anciens appartements. J'étais assis à notre vieille table de travail, entouré d'un fouillis de traités sur l'art. J'ai presque éprouvé du soulagement à lui enseigner le jeu des cailloux de Caudron. Il a eu du mal à en comprendre les règles, mais il a l'air de commencer à les saisir. J'espère que cela va l'obliger à ralentir et lui apprendre à détecter des niveaux plus profonds de sa magie. Tout le reste lui vient naturellement. Il artise aussi instinctivement qu'un chiot de chasse repère une piste. On dirait non qu'il étudie, mais qu'il retrouve progressivement la mémoire.
« Et ce n'est pas bien ?»
demanda le vieil assassin d'un ton enjoué. Il se mit à fouiller parmi les herbes à tisane des hautes étagères, où il avait toujours rangé ses concoctions les plus dangereuses et les plus puissantes. Avec un petit sourire, je le regardais se jucher sur un tabouret et me demandais s'il les croyait encore hors de ma portée. Cela pourrait être dangereux. Une fois qu'il m'aura dépassé et entreprendra d'explorer les autres possibilités de l'art, il s'aventurera là où je n'ai aucune expérience. Je ne serai même pas en mesure de le prévenir des risques qu'il courra, et encore moins de le protéger. Démoralisé, j'écartai de moi un manuscrit d'art et la traduction maladroite que j'en avais effectuée. Dans ce domaine aussi, devoir me surpassait. Il avait le même don qu'Imbre pour les langues. Alors que je déchiffrais les textes lentement, mot à mot, il lisait chaque phrase après l'autre et en transcrivait le sens en une prose concise. Des années sans pratiquer ce genre d'exercice avaient émoussé mes aptitudes linguistiques. Étais-je jaloux de la vivacité d'esprit de mon élève? La qualité de mon enseignement risquait-elle d'en souffrir?
« Peut-être l'a-t-il hérité de toi ?»
fit Imbre d'un ton songeur. « Quoi donc ?»«
L'art. Nous savons que tu as eu des contacts mentaux avec lui depuis sa plus tendre enfance. Cependant, tu affirmes que le vif ne permet pas ce type d'échange. Par conséquent, il doit s'agir de l'art. Tu lui as peut-être appris comment artiser alors qu'il était encore très jeune. Ou du moins, tu y as préparé son esprit. »
Je n'aimais pas la pente que suivaient ces réflexions. Je songeais à Horty et me sentis aussitôt mauvaise conscience. L'avais-je mise en danger, elle aussi? Je vous vois venir. Vous cherchez à me rendre responsable de ce qui arrive à ce garçon. Je m'efforçais de prendre un ton léger, comme si cela pouvait chasser l'angoisse subite qui m'avait saisi. Avec un soupir et à contre-cœur, j'attirai à moi ma traduction inachevée. Si je tenais à poursuivre mon œuvre en tant que professeur de devoir, il me fallait accroître mes connaissances sur l'art. Le manuscrit d'origine proposait divers exercices à donner à l'étudiant pour améliorer ses capacités de concentration. J'espérais qu'il me servirait. Imbre vint jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule.
Et qu'as-tu pensé de l'autre texte, celui qui traite de la douleur en relation avec l'art?
Je levai les yeux vers lui, perplexe. Quel autre texte? L'agacement se peignit sur ses traits.
Tu sais bien, voyons, je l'ai sorti à ton intention.
Je parcourus la table d'un regard chargé de sous-entendus. Elle était encombrée d'au moins une dizaine de parchemins et d'autres documents. Lequel est-ce?
Un de ceux-là. Je te l'ai montré, mon garçon, j'en suis sûr.
J'étais tout aussi certain du contraire. Toutefois, je me tus. La mémoire d'Imbre le trahissait parfois, je le savais. Il le savait aussi, mais refusait de l'avouer. Je m'étais aperçu également que le simple fait de mentionner cette éventualité le mettait dans un état de fureur qui m'ébranlait plus que l'idée de voir mon vieux mentor perdre son acuité intellectuelle. C'est donc sans rien dire que je le laissai fouiller dans la masse de manuscrits, dont il tira enfin un parchemin orné d'une bordure bleue.
Tiens, le voici là où je l'avais posé pour toi. Tu ne l'as même pas ouvert.
Non, en effet, reconnus-je sans remords, peu désireux de m'attarder sur le sujet. De quoi parle-t-il, avez-vous dit? Il m'adressa un regard de mécontentement.
De la douleur liée à l'art, comme tes fameuses migraines. On y évoque certains remèdes à base d'exercices autant que de plantes, mais on y déclare aussi qu'avec le temps, elles peuvent simplement cesser d'apparaître. Cependant, c'est la note qu'on trouve vers la fin qui m'a intéressé. Boiscoudé affirme que certains maîtres d'art imposaient des barrières de douleur à leurs étudiants pour les empêcher de se lancer seuls dans des expériences, sans préciser si on pouvait rendre ces obstacles assez solides pour interdire définitivement l'art à quelqu'un. Mon attention a été attirée à double titre. Je me suis d'abord demandé si Galen ne t'avait pas infligé un tel traitement, et ensuite si on pouvait employer ce moyen pour brider l'our.
Je remarquai qu'il ne suggérait pas d'utiliser cette méthode comme garde-fou pour le prince. L'our revenait donc sur le tapis. Mais après tout, le vieil assassin avait raison. Tôt ou tard, il faudrait bien régler la question du simple d'esprit. Je répondis néanmoins. Il me déplairait de me servir de la souffrance pour plier une créature à ma volonté. L'our artise sa musique pratiquement sans arrêt. Si on l'en punit par la douleur, si on l'empêche de l'émettre, j'ignore ce que cela peut provoquer chez lui. Humbre chassa l'idée d'un grognement. Avant même de me la soumettre, il savait que je la rejetterais. En revanche, Galen n'aurait certainement pas hésité à m'estropier ainsi. L'avait-il fait ? Humbre déroula le parchemin devant moi et son doigt noueux désigna le passage mentionné. Je le lus, mais n'y découvris rien qu'il ne m'eût déjà dit. Je me radossai. Je tâche de me rappeler quand j'ai commencé à souffrir après avoir artisé. Ce qui est sûr, c'est que l'art me fatiguait toujours. La première fois que vérité a puisé dans mon énergie, je suis tombé raide, inconscient, et quand j'employais l'art de façon soutenue, j'en ressortais exténué, le cœur presque au bord des lèvres. Pourtant, je n'ai pas le souvenir d'avoir souffert de migraine avant. Je réfléchis un moment, puis secouai la tête. Non, impossible de donner une date. Lorsque, par accident, j'ai découvert comment me déplacer dans le monde grâce à l'art, je me suis réveillé tremblant d'épuisement, et j'ai pris de l'écorce elfique pour me remettre. J'ai continué par la suite, et au bout de quelque temps, mon état de faiblesse, après avoir artisé, s'est doublé de migraines. Je soupirai. Non, je ne crois pas qu'on m'ait imposé une barrière de douleur. Humbre était retourné près de ses étagères. Il revint avec deux bouteilles.
Le fait que tu as le vif pourrait-il être en cause? On évoque souvent dans les textes le danger d'employer les deux magies simultanément.
Cherchait-il à me faire toucher du doigt l'étendue de mon ignorance? Ces questions m'exaspéraient. Elle me rappelait sans ménagement que je guidais mon prince à travers un territoire que je ne connaissais pas. Je secouai la tête avec lassitude. Encore une fois, Humbre, je n'en sais rien. Nous pourrons peut-être juger cette hypothèse fondée si le prince commence à souffrir de maux de tête après avoir artisé.
Tu croyais que tu comptais séparer son vif de son art?
Oui, si je savais comment m'y prendre. Je tâche pour l'instant de trouver des moyens de lui faire employer l'art indépendamment du vif. J'ignore comment l'obliger à détacher l'un de l'autre, tout comme j'ignore comment le débarrasser de l'ordre d'art que j'ai imprimé en lui sur la plage. Humbre haussa ses sourcils blancs, tout en mettant une mesure de tisane à infuser.
« L'ordre de ne pas te résister ?»
J'acquiesçais de la tête.
« Ma foi, ça me paraît tout simple. Inverse-le. »
Je serrai les dents en retenant la réponse qui me venait. Ça vous paraît simple, parce que vous ne possédez aucune de ces magies et que vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'étais là, et je m'en voulais de ne pas trouver la solution. Le vieil assassin n'y était pour rien. Je ne comprends pas précisément comment j'ai gravé cet ordre en lui. Je n'ai donc pas d'idée précise sur la façon de l'effacer. Inverser le processus n'a rien de simple. Quel contre-ordre dois-je lui donner ? Résistez-moi ? Songez que Chevalerie a infligé le même traitement à Galen. Dans un jour de colère, il a imprimé un ordre en lui. Or, ni lui, ni Vérité n'ont jamais réussi à découvrir comment le faire disparaître.
Mais Devoir est ton prince et ton élève. Ta position vis-à-vis de lui est différente. »
« Je ne vois pas le rapport, » répondis-je, en m'efforçant de ne pas prendre un ton trop sec.
« Ma foi, cela pourrait te faciliter la tâche. »
Il fit tomber quelques gouttes d'un liquide indéterminé dans l'infusion, puis reprit avec délicatesse.
« Le prince est-il au courant ? Sait-il que tu lui as ordonné de ne pas lui résister ?»«
Non !»
J'avais laissé ma colère éclater sur ce mot. Je tâchais de me calmer.
« Non, et j'ai honte de mon geste. Honte aussi de vous avouer que j'ai peur de le lui révéler. Dans bien des domaines, j'en suis encore à découvrir qui il est, Imbre. Je ne veux pas lui donner de motif de se méfier de moi. »
Je me frottais le front. Notre rencontre n'a pas eu lieu dans les meilleures conditions, vous savez.
Je sais, je sais.
Il vint tapoter amicalement mon épaule.
Alors dis-moi, comment t'y prends-tu avec lui?
J'apprends surtout à le connaître. Nous traduisons ensemble des manuscrits. J'ai emprunté des épées d'exercice à l'armurerie et nous avons pris la mesure l'un de l'autre. Il est bon bretteur. Si je puis en juger d'après le nombre de bleus qu'il m'a infligé, je pense avoir atténué, voire effacé mon ordre d'art.
Mais tu n'en es pas certain.
Non, pas vraiment. Quand nous nous entraînons à l'épée, nous ne cherchons pas à nous blesser pour de bon. C'est un jeu, comme lorsque nous pratiquons la lutte. Pourtant, je n'ai jamais l'impression qu'il retient ses coups, ni qu'il me laisse gagner.
D'accord. Tu sais, je me réjouis que tu sois près de lui. Que ce soit pour le former au combat ou à l'art, je pense que l'absence de cette camaraderie un peu brusque était une lacune dans son existence et qu'il le sentait.
Imbre ôta la bouilloire du feu et versa l'eau bouillante sur son mélange de feuilles.
« Enfin, le temps nous le dira, je suppose. Alors raconte-moi, as-tu artisé avec lui ?»
Je me cachai le nez derrière la main. La vapeur qui montait de la tisanière me faisait pleurer. Imbre y paraissait insensible.
Oui, nous avons pratiqué quelques exercices afin de l'aider à concentrer sa magie. Concentrer sa magie.
Imbre fit tournoyer l'eau dans le récipient, puis referma le couvercle. Actuellement, lorsqu'il artise, il hurle à tue-tête du haut d'une tour et n'importe qui peut l'entendre. Nous nous efforçons de réduire ce cri à un murmure audible par moi seul. En outre, nous travaillons à lui faire transmettre uniquement ce dont il souhaite me faire part, en laissant de côté toutes les autres pensées qui traînent dans son esprit, d'où des exercices précis. Je lui demande d'entrer en contact avec moi, alors qu'il se trouve à table, en pleine conversation avec d'autres. Ensuite, nous affinons le processus. Est-il capable de m'artiser et de me décrire ce qu'il mange tout en conservant à l'esprit l'identité de ses voisins? Après cela, nous nous fixons d'autres objectifs. Est-il en mesure de m'interdire l'accès à ses pensées? Peut-il mettre en place des murailles qu'il me soit impossible de franchir même en pleine nuit, tandis qu'il dort à poing fermé? Le front plissé, Imbre alla chercher une tasse et se servit du pan flottant de sa manche pour la nettoyer. Je réprimais un sourire. Parfois, quand nous étions seuls, il quittait son rôle de grand dignitaire de la cour pour redevenir le vieillard inflexible qui m'avait formé à mon premier métier.
« Crois-tu qu'il soit judicieux de lui enseigner à t'exclure de son esprit ?»«
Il faut bien qu'il l'apprenne au cas où il se trouverait confronté à quelqu'un qui n'aurait pas de bonne disposition à son égard. Pour le moment, je suis le seul artiseur avec lequel il puisse s'exercer. »«
Il y a lourd !»
observa Imbre en se servant. Un liquide noir verdâtre et brûlant emplit la tasse. Il le contempla d'un air dégoûté. « Je ne crois pas pouvoir m'occuper de plus d'un étudiant pour l'instant, » répliquai-je. « Avez-vous réglé l'autre problème de Lourdes ?»«
Quel problème ?»
Imbre se rassit devant la cheminée, sa tasse à la main. L'inquiétude me saisit. Je m'efforçais de la dissimuler sous un ton dégagé. « Je pensais vous en avoir parlé. Il a des ennuis avec les autres domestiques qui le brutalisent et lui volent son argent. »«
Ah oui !»
Il s'adossa dans son fauteuil comme si le sujet n'avait pas d'importance, et je poussai un discret soupir de soulagement. Il n'avait pas oublié notre conversation.
J'ai inventé un prétexte pour que la cuisinière lui fournisse un logement à part. Officiellement, c'est là qu'il travaille, tu sais, aux cuisines. Il dispose donc à présent d'une chambre près des dépenses. Elle n'est pas grande, mais à ce que j'ai compris, c'est la première fois qu'il a un espace rien qu'à lui. Je crois qu'il en est content.
Tant mieux.
Je me tus un instant.
Avez-vous déjà songé à l'envoyer loin de Castelcerf? En attendant que le prince maîtrise mieux l'art, veux-je dire. Par moments, sa façon d'artiser sans retenue nous dérange un peu. C'est comme essayer d'effectuer un calcul compliqué à côté de quelqu'un qui compte tout haut.
Humbre prit une gorgée de son infâme décoction. Après une grimace de dégoût, il l'avala résolument.
Je crispais le visage par sympathie, puis le regardais sans rien dire, tendre son long bras pour s'emparer de mon verre et faire passer l'infusion d'une grande lampée de vin. Il me répondit d'une voix rauque.
« Tant que Lourd demeure le seul candidat artiseur que nous connaissions en dehors du prince, je le maintiens ici, où je peux le surveiller, et toi tenter de gagner sa confiance. As-tu effectué des tentatives dans ce sens ?»«
Je n'en ai pas eu l'occasion. »
Je me levai, allai chercher un deuxième verre, et nous versai du vin à tous les deux. Humbre revint près de la table, déposa côte à côte décoction et alcool, et les contempla d'un air douloureux. « J'ignore s'il m'évite, repris-je, ou bien si, tout simplement, les tâches qu'il accomplit à votre service l'empêchent de croiser mon chemin. »«
Je lui en ai ajouté d'autres ces derniers temps. » »«
Ah, cela explique son manque de soin ici, » fis-je d'un ton un peu acerbe. « Certains jours, il pense à remplacer les bougies consumées par de nouvelles, et d'autres jours, non. Parfois, je trouve la cheminée propre, le feu prêt à être allumé, et parfois l'âtre est plein de cendres et de brandons froids. À mon avis, c'est à cause de son aversion pour moi. Il en fait le moins possible.
Songe que, comme il ne sait pas lire, je ne peux pas lui donner de liste écrite de corvées. Aussi, je les lui énumère oralement, et quelquefois, il se les rappelle toutes et les exécute, et quelquefois, il en oublie. Cela fait de lui un piètre serviteur, mais pas obligatoirement paresseux ni rancunier.
Humbre prit une nouvelle gorgée de son infusion. Cette fois, malgré tous ses efforts, il ne put retenir une quinte de toux et aspergea la table. J'écartai vivement les manuscrits. Il s'essuya les lèvres avec son mouchoir, dont il se servit ensuite pour nettoyer la table.
« Pardon !»
fit-il gravement, les yeux larmoyants, et il avala une gorgée de vin. « Qu'y a-t-il dans cette tisane ?»«
Sylvefeuille, beurre de sorcière ?» crêpes de mer et quelques autres plantes. »
Il en but une nouvelle rasade qu'il fit descendre avec du vin. « À quoi sert-elle ? » Un souvenir frappait à lui de ma mémoire.
« À traiter de petits maux dont je souffre, »
répondit-il d'un ton évasif. Je me levai, me mis à fouiller parmi les manuscrits entassés sur la table et trouvai presque aussitôt celui que je cherchais. Les couleurs des illustrations étaient restées vives malgré les années. Je déroulai le parchemin et posai le doigt sur un dessin de sylvefeuille. Ces plantes sont désignées ici comme utiles à qui veut s'ouvrir à l'art. Il me regarda d'un air impavible.
Et alors ?
Humbre, à quoi jouez-vous ? Qu'essayez-vous de faire ? Il me dévisagea un moment sans rien dire, puis il me demanda d'un ton froid.
Serais-tu jaloux ? Crois-tu toi aussi qu'il faut m'interdire ce à quoi ma naissance me donne droit ?
« Pardon ?» Alors, dans un flot de paroles où perçait une étrange sorte de colère, il déclara.
« On ne m'a jamais offert l'occasion de passer les épreuves pour savoir si j'avais l'art ou non. On n'enseignait pas cette magie aux bâtards, du moins jusqu'à ton arrivée, où Subtil a fait une exception. Pourtant, je ne suis pas moins loin-voyant que toi. Et je possède certaines magies mineures, comme tu dois t'en douter depuis le temps que tu me connais. »
Il était dans tous ses états, je le voyais bien. Mais je n'en comprenais pas la raison. J'acquiesçai de la tête et répondis d'un ton apaisant. « Ouais, comme la lecture de l'eau. C'est ainsi que vous avez appris l'attaque des pirates rouges contre Fin Bay pendant la guerre. »«
En effet !»
fit-il d'un air satisfait. Il s'adossa dans son fauteuil, mais ses mains allaient et venaient sur le bord de la table, doigts tambourinant comme des araignées. Les substances contenues dans sa tisane commençaient-elles à l'affecter ?
« Oui, je possède mes magies personnelles, et peut-être, si la possibilité m'en était donnée, pourrais-je aussi pratiquer celle de mon sang, celle qui me revient de droit. Ne tente pas de me l'interdire, Fitz. De son vivant, mon propre frère m'a toujours défendu de me soumettre aux simples examens de vérification. Ma naissance m'autorisait à le protéger, et à former ses fils et son petit-fils, mais pas à apprendre ma magie légitime.
Depuis combien de temps nourrissait-il cette rancœur? Je me remémorais soudain son exaltation, le jour où Subtil avait donné son aval à ma formation à l'art, puis son dépit et sa colère quand j'avais apparemment échoué et refusé de lui parler de mes leçons. C'était un très vieux ressentiment que je découvrais seulement aujourd'hui. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je sur le ton de la conversation. « Ces manuscrits sur l'art sont en votre possession depuis 15 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?» Je pensais connaître la réponse. Il voulait que je sois présent pour l'aider. Mais il me surprit encore une fois.
« Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai attendu ?»« Cependant, j'ai récemment accentué mon effort, c'est exact, parce que j'ai absolument besoin de cette magie. Nous en avons déjà parlé. Je savais que tu refuserais de m'assister. »
Il avait raison. Pourtant, s'il m'en avait demandé la raison en cet instant, j'aurais été bien en peine de la lui fournir. J'évitais la question. Quelle urgence y a-t-il? Le royaume est en paix, pourquoi vous exposer au danger?
Regarde-moi, Fitz, regarde-moi, je vieillis. Le temps m'a joué un tour ignoble. Quand j'étais jeune et vigoureux, je restais enfermé dans ces appartements, obligé de me cacher, réduit à l'impuissance. Aujourd'hui, alors que l'occasion m'est fournie de donner de solides fondations au trône des loin-voyants, je suis vieux et affaibli. Mon esprit chancelle, mon dos m'élance, mes souvenirs s'embrument. Crois-tu que je ne remarque pas ton expression inquiète quand je te dis que je dois chercher dans mes notes pour te trouver un renseignement? Imagine alors ce que je ressens, moi. Représente-toi ce que c'est, Fitz, de ne plus avoir sa mémoire à disposition immédiate, de tenter vainement de se rappeler un nom, de perdre subitement le fil de la conversation au beau milieu d'un trait d'humour. Adolescent, tu pensais ne plus pouvoir faire confiance à ton corps à cause de tes crises, tu te jugeais trahi et tu sombrais dans le désespoir, mais tu avais toujours ta tête. Moi, je crois que je suis en train de la perdre.
C'était une révélation terrible. Aussi terrible que si je venais d'apprendre que les fondations du château de Castelserre s'étaient effritées et commençaient à s'écrouler. C'était seulement de façon récente que j'avais pris toute la mesure du travail de jongleur qu'Imbre accomplissait pour Kétriken. Je m'étais empêtré dans la nasse des relations sociales où se jouait la politique de Castelserre, et saisi dans ses mailles, je m'efforçais d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Quand j'étais jeune, Imbre m'expliquait ce qui se passait dans le château, et cela me semblait tout naturel. À présent, je voyais la situation d'un œil d'adulte, et je restais confondu devant sa complexité. Confondu et fasciné à la fois. On eût dit le jeu des cailloux de Caudron, à une échelle bien supérieure. Les pions se déplaçaient, les alliances changeaient, et l'équilibre du pouvoir se modifiait, le tout, parfois en l'espace de quelques heures. Je n'en éprouvais que plus d'ébahissement devant la science approfondie qu'en avait Imbre, qui devait guider la reine Kétriken dans les méandres périlleux des loyautés instables de l'aristocratie. Tout était relié à tout, mais j'aurais été incapable de m'y retrouver. Depuis mon retour à Castelserre, je m'émerveillais de la capacité d'Imbre à intégrer tous les éléments dans un tableau cohérent, et je redoutais la venue du jour où il n'y parviendrait plus. Il n'avait plus les mêmes facilités qu'autrefois. Preuve qu'il ne se fiait plus à sa mémoire, ses journaux, épais volumes reliés à plat à la jamaïlienne, qu'il annotait fréquemment. Il y en avait 6 identiques, hormis les couvertures, d'une couleur différente pour chaque duché, rouge, bleu, vert, jaune, violet et or. Quels critères il employait pour savoir dans quel livre classer tel ou tel renseignement, j'étais incapable de l'imaginer. Dans un 7e volume, blanc et orné du cerf loin-voyant, il inscrivait ses notes quotidiennes, et il s'y référait souvent pour retrouver une rumeur, un extrait de conversation ou le résumé d'un rapport d'espion. Et jusque dans ce journal secret, qui ne quittait jamais ses appartements dissimulés, il écrivait en code. Il ne m'avait jamais proposé l'accès à ses livres, et je ne le demandais pas. Il renfermait certainement quantité d'informations que je ne tenais pas du tout à connaître. En outre, c'était une mesure de sécurité supplémentaire pour ces espions qui œuvraient dans les 6 duchés, car je ne risquais pas de révéler fortuitement des secrets que j'ignorais. Pourtant, qu'Imbre s'effraya de ses pertes de mémoire ne m'expliquait pas son attitude. « Je sais que vous avez des difficultés, et je m'inquiète pour vous. Mais dans ces conditions, pourquoi vous fatiguer davantage à essayer d'apprendre l'art ? Ses mains se crispèrent en points noueux sur la table.
À cause de ce que j'ai lu, et à cause de l'usage que tu en as fait. D'après les textes, un artiseur est capable de réparer son propre organisme, de prolonger sa vie. Quel âge avait cette Caudron avec qui tu as voyagé ? 2 siècles ? 3 ? Or, elle était restée assez solide pour affronter un hiver montagnard. Toi-même, tu m'as raconté t'être introduit dans ton loup et l'avoir remis en état, du moins provisoirement. Si je réussissais à m'ouvrir à ton art, ne pourrais-tu en faire autant pour moi ? Ou bien, si tu refusais comme je le suppose, ne serais-je pas en mesure d'opérer sur moi-même ?
Et comme pour démontrer l'inflexibilité de sa résolution, il saisit la tasse et l'avala vaillamment cul-sec. Il s'étrangla aussitôt et toussa en postillonnant. Les lèvres humides de potion noirâtre, il s'empara de son verre de vin et l'engloutit également.
« Je remarque que tu ne te précipites pas pour m'offrir ton aide !»
fit-il d'un ton aigre, en s'essuyant la bouche. Je poussai un grand soupir. « Imbre, c'est à peine si je comprends les rudiments que je tente d'apprendre au prince. Comment pourrais-je vous proposer de vous enseigner une magie qui me demeure mystérieuse ? Imaginez que je... »«
C'est ta plus grande faiblesse, Fitz, et ce depuis toujours. Tu es trop prudent. Tu manques d'ambition. » C'est ce qui plaisait à Subtil chez toi. Il ne t'a jamais craint, comme il me redoutait, moi.
Je restai bouche bée, meurtri jusqu'à l'âme, mais il poursuivit sans paraître se soucier du coup terrible qu'il venait de me porter.
Je me doutais que tu ne serais pas d'accord. Toutefois, ton assentiment n'est pas nécessaire. Mieux vaut que j'explore seul l'orée de cette magie. Une fois que j'aurai ouvert la porte, « eh bien, on verra alors ce que tu penses de ton vieux mentor. »« À mon avis, je vais t'étonner, Fitz. Je crois posséder l'art, peut-être depuis toujours, et c'est toi-même qui m'en as fourni l'indice en évoquant la musique de lourd. Je l'entends, enfin, il me semble, aux extrêmes limites de mon esprit, au moment où je sombre dans le sommeil le soir. Ouais, je pense que j'ai l'art. »
J'étais incapable de répondre. Il s'attendait à une réaction à ses revendications, alors que je n'avais qu'une idée en tête. J'avais l'impression, non pas d'avoir jamais manqué d'ambition, mais seulement de n'avoir pas entretenu d'aspirations correspondant aux objectifs qu'il m'avait fixés. Le silence s'éternisa entre nous au point de devenir gênant. Et, quand il le rompit pour changer de sujet, ce fut encore pire.
« Eh bien, tu n'as rien à dire, je vois. »
Avec un sourire forcé, il demanda.
« Alors, comment se passe l'apprentissage de ton garçon ?»
Je me levai. Mal. Je suppose que Heur, comme son père adoptif, manque d'ambition. Bonne nuit, Imbre. Je sortis et descendis dans ma chambre de domestique. Je ne dormis pas. Je n'osais pas. J'évitais mon lit autant que possible et ne m'y allongeais que lorsque l'épuisement m'y contraignait. Certes, j'avais besoin de ces heures sombres pour étudier les traités d'art, mais surtout je me retrouvais assiégé dès que je fermais les yeux. Chaque nuit, avant de me coucher, je dressais mes murailles d'art et presque toujours, Orti montait à leur assaut. Sa puissance et son obstination me déroutaient. Je ne voulais pas que ma fille pratique l'art. Il m'était impossible de l'amener à Castelcerf pour la former, et ses excursions sans personne pour la guider m'effrayaient. J'avais donc tenu le raisonnement suivant. Si je la laissais pénétrer dans mon esprit, cela ne servirait qu'à l'encourager à poursuivre sa découverte de la magie. Tant qu'elle ignorait qu'elle artisait, tant qu'elle croyait entrer en contact avec un personnage né de ses rêves, un être imaginaire et sans existence réelle, je parviendrais peut-être à l'empêcher de prendre des risques, même au prix d'une certaine frustration. Si je réagissais à sa présence une seule fois, ne fût-ce que pour la repousser, je craignais qu'elle n'apprît. Je ne sais comment, qui et où j'étais. Mieux valait qu'elle reste dans l'ignorance. À force d'échouer à communiquer avec moi, peut-être finirait-elle par baisser les bras. Qui sait si elle ne trouverait pas un autre sujet d'intérêt, un beau jeune homme du voisinage ou une vocation subite pour un métier. C'était en tout cas mon espoir. Cela ne m'empêchait pas de me lever chaque matin, aussi épuisé que je m'étais couché la veille. Le reste de ma vie personnelle avait pris une tournure tout aussi ingrate. Mes efforts pour réserver quelques heures afin de parler avec Heur étaient aussi vains que les rencontres arrangées par Imbre entre Lour et moi. Mon garçon était complètement entiché de Svania. Pendant 3 semaines, je passais la plupart de mes soirées libres à tabler au port coincé, en attendant l'occasion de m'entretenir seul avec lui. Et la salle commune pleine de courants d'air où l'on servait une bière fadasse ne me poussait pas à la patience. Souvent, il ne venait pas, et quand il lui arrivait de se présenter, c'était en compagnie de Svania. C'était une ravissante jeune fille aux cheveux noirs et aux grands yeux, longue et souple comme une tige de saule, qui pourtant donnait en même temps une impression d'inflexibilité. Bavarde comme une pie, elle me laissait rarement l'occasion de placer un mot, et encore moins de m'entretenir seul à seul avec Heur. Assis à côté d'elle, il s'imbibait de sa présence et de sa beauté rayonnante, tandis qu'elle me parlait à n'en plus finir d'elle-même, de ses parents, de ses projets d'avenir, de son opinion sur Heur, Castelser et l'existence en général. J'avais retiré de ce flot de paroles que sa mère, épuisée par sa fille qui n'en faisait qu'à sa tête, se réjouissait plutôt de l'avoir fréquenté un jeune homme avec quelques perspectives de carrière. Son père portait sur Heur un avis moins charitable, mais Svania pensait l'amener bientôt à partager ses vues, et dans le cas contraire, s'il n'acceptait pas que sa fille choisisse elle-même son prétendant, il valait peut-être mieux qu'il ne se mêle plus de sa vie. Qu'une jeune femme à l'esprit indépendant affiche une telle hardiesse ne manquait pas de panache, mais j'étais père moi aussi, et la personnalité de celle sur laquelle Heur avait jeté son dévolu m'inspirait quelques réserves. Svania, pour sa part, paraissait indifférente au fait que j'approuve ou non son attitude, et en réfléchissant, j'en conclus que j'appréciais son caractère entier, mais pas du tout sa désinvolture envers mes sentiments. Enfin, un soir, Heur arriva seul, mais cette occasion de parler en tête-à-tête avec lui se révéla peu satisfaisante. Il se montra d'humeur morose à cause de l'absence de Svania et se plaignit amèrement de l'entêtement de son père qui forçait avec plus de fermeté que jamais sa fille à rester à la maison une fois la nuit tombée. Tout cela pour l'empêcher de voir son amoureux. Quand, à grand ahan, je réussis à orienter la conversation sur son apprentissage, il se contenta de répéter ce qu'il m'avait déjà dit. Il était mécontent de la façon dont on le traitait. Guindast le prenait pour un lourdeau et se moquait de lui devant les compagnons. On lui attribuait les corvées les plus ennuyeuses sans jamais lui donner la possibilité de faire ses preuves. Pourtant, quand, sur mon insistance, il me fournit des exemples, j'en retirais de Guindast l'impression d'un maître exigeant, mais pas de façon déraisonnable. Loin de me convaincre qu'on m'usait de lui, ses lamentations me donnèrent une image de la situation différente de celle qu'il s'en faisait. Il était épris de Svania, elle occupait toutes ses pensées, et on pouvait mettre au compte de la distraction dont elle était la cause les fautes qu'il commettait à répétition et ses fréquentes arrivées tardives au travail. J'avais la conviction que sans Svania, Heur se montrerait plus appliqué et apprendrait avec moins de réticence. Un père plus strict lui aurait peut-être interdit de la revoir. Je n'en fis rien. Je songe parfois que j'agis ainsi parce que je me rappelais combien ce genre de contrainte me pesait à son âge. À d'autres moments, je me demande si je ne craignais pas que Heur ne désobéit à une telle injonction, et si pour cette raison, je n'osais pas la lui imposer. Je vis aussi Gina, mais lâchement, je m'arrangeais pour ne lui rendre visite que lorsque la ponette et sa carriole dans la pantille indiquaient la présence probable de sa nièce. Je souhaitais freiner notre relation charnelle et y réfléchis, même si la seule idée de son lit chaud exerçait sur moi une attirance à laquelle je résistais difficilement. Je fis pourtant des efforts. Quand je passais chez elle, j'abrégeais mon séjour en prétextant des commissions urgentes pour mon maître. La première fois, Gina parut accepter mon excuse. La seconde, elle me demanda quand je pensais disposer d'un après-midi libre, et bien qu'elle eût posé la question devant sa nièce, elle m'en transmit une autre du regard. Je répondis en biaisant que mon maître était capricieux et ne m'accordait jamais de journée précise pour m'occuper de mes propres affaires. J'avais pris un ton de regret, et elle hocha la tête avec compassion. La troisième fois où je lui rendis visite, sa nièce était partie aider une amie de Bourg de Castelser qui venait de connaître un accouchement difficile, comme me l'apprit Gina après s'être fougueusement jetée dans mes bras et m'avoir longuement embrassée. Devant tant d'ardeur et d'empressement, ma résolution de réfréner mes passions fondit comme celle sous la pluie. Sans autre préliminaire, elle loqueta la porte derrière moi, me prit par la main et m'emmena dans sa chambre. « Un instant, » me dit-elle sur le seuil, et je m'arrêtai. « Tu peux entrer. annonça-t-elle peu après, et je vis alors qu'elle avait recouvert son amulette d'un châle épais. Elle prit une grande inspiration, comme un affamé avant un bon repas, et je ne vis plus soudain que ses seins qui tendaient le tissu de son corsage. C'était une grosse bêtise, je le savais bien, mais cela ne m'empêcha pas de la commettre, et à plusieurs reprises. Quand nous parvînmes enfin au bout de nos forces, et que Gina se mit à somnoler contre mon épaule, j'en commis une encore plus grosse. « Gina, murmurai-je, crois-tu que nous agissions sagement ?»«
Folie, sagesse, quelle importance ?»
répondit-elle d'une voix endormie.
« Nous ne faisons pas de mal. »
Elle avait pris ma question à la plaisanterie, mais je déclarai d'un ton grave.
« Si, je pense que c'est important, et que nous faisons peut-être du mal. »
Elle poussa un long soupir et se redressa près de moi, en écartant ses boucles emmêlées de ses yeux. Elle me dévisagea de son regard de myope.
« Tom, pourquoi tiens-tu toujours à compliquer notre relation ? Nous sommes adultes. Nous ne sommes promis à personne, et je t'ai donné la garantie que je ne pouvais pas tomber enceinte. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de prendre un plaisir simple et honnête quand nous en avons l'occasion ?
Peut-être parce que ça ne me paraît ni simple ni honnête. Je m'efforçais de donner une tournure logique à ce que je ressentais. Ma conduite est précisément celle que j'ai toujours présentée à Heure comme condamnable. Je couche avec une femme à laquelle je n'ai pas juré fidélité. S'il venait m'avouer aujourd'hui qu'il fait avec Svania ce que nous venons de faire, je le réprimanderai sévèrement et je lui dirai qu'il n'a pas le droit de... Elle m'interrompit.
« Tom, nous donnons à nos enfants des règles destinées à les protéger ?» Une fois adultes, nous connaissons les risques et nous choisissons en conscience ceux que nous acceptons de courir. Nous ne sommes plus des enfants, ni toi ni moi. Nous ne nous berçons pas d'illusions sur ce que nous avons à nous offrir mutuellement. Que peux-tu bien trouver à redouter, Tom ?
J'ai peur de ce que Heure penserait de moi s'il apprenait la vérité. Et puis, je n'aime pas le tromper en m'autorisant ce que je lui interdis. Je détournai les yeux. J'aimerais aussi que notre relation soit davantage que seulement celle d'adultes qui prennent des risques pour un peu de plaisir.
Ah, eh bien, cela viendra peut-être avec le temps,
dit-elle. Mais à sa voix, je la sentis blessée, et je compris alors que, malgré ses protestations, elle avait peut-être bel et bien entretenu des illusions sur ce que nous vivions. Qu'aurais-je dû répondre ? Je l'ignore. J'endossai le rôle du lâche et répétai « Cela viendra peut-être avec le temps », sans en croire le premier mot. Nous paraissâmes encore quelque temps au lit, puis nous nous levâmes pour boire une tasse de tisane au coin du feu. Quand j'annonçai enfin qu'il me fallait partir, et répondant à sa question par une mauvaise excuse, lui dis que je n'étais pas en mesure de prévoir quel soir je pourrais revenir. Elle détourna les yeux et murmura
« Dans ce cas, passe quand tu en auras envie, Tom ».
Sur ces mots, elle me donna un baiser d'adieu. Quand sa porte se fut refermée derrière moi, je regardais les étoiles qui scintillaient avec éclat dans le ciel d'hiver, soupirais, puis, la conscience tourmentée, entamais le long trajet qui me ramènerait à Castelserre. Je volais Gina, non en lui refusant un serment d'amour qu'elle aurait su faux, mais en me laissant aller à notre attirance mutuelle. Jamais sans doute je n'aurais pour elle de sentiments plus forts que ceux que j'éprouvais aujourd'hui. Pire encore, je ne parvenais pas à me jurer de ne plus la revoir, alors que je n'avais à lui offrir qu'une amitié mêlée de passion purement physique. Je me dégoûtais et cela ne s'arrangea pas quand je m'avouais non sans mal que Heure avait dû deviner que je partageais à l'occasion la couche de Gina. Piètre exemple à donner à mon garçon. Le chemin jusqu'à Castelserre me parut très sombre et très froid cette nuit-là.